France Inter.
J'ai pris un avion pour Kiev, puis un taxi pour me rendre de l'aéroport à la gare. Vadim, le chauffeur, parlait un anglais plus rudimentaire que le mien. J'ai mis un peu de temps à comprendre. Ensuite, je suis montée dans un train de nuit qui partait de Kiev vers le sud sous la neige, en trouant le vent qui faisait trembler le wagon. « Nous allons dérailler », me disais-je dans un demi-sommeil, et les mises en garde du ministère français des affaires étrangères contre les trains de nuit ukrainiens ricochés sur les parois du compartiment, vol, viol, mauvaise rencontre, attaque par des bandes de pillards. Mais je n'avais pas peur, et ce n'était pas un sentiment d'immunité, au contraire, plutôt celui d'une vulnérabilité enfin tranquille. Valérie Zenati est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de son nouveau texte intitulé « Dans le faisceau des vivants ». Et comme chaque soir, et surtout pour le deuxième soir de l'année, nous allons commencer en musique avec Maury Arty.
Words like violence break the silence, come and crashing in into my little world, painful to me. Right through me, can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
Le silence. J'ai l'impression que vous passez votre temps à essayer de briser le silence à l'intérieur de vous, Valérie Zenati, depuis que vous êtes toute petite.
Je vous démarrais fort. Oui, en tout cas, le briser certainement. Je pense que tout enfant fait l'expérience de ce qu'il n'arrive pas à dire. Et il y a des choses qui s'inscrivent là, dans ces moments où on n'a vraiment pas les mots. On ne sait pas qu'on ne les trouve pas, mais ils n'existent pas encore pour nous. Et puis ensuite, peut-être que le chemin de l'écriture, notamment, c'est de faire parler ce silence-là.
Petite, vous étiez timide ?
Extrêmement. Extrêmement, et pour plein de raisons, je suppose, mais je crois que il y avait peut-être la peur de mal faire, de mal dire, de ne pas savoir. Et puis, d'autres raisons moins avouables, je pense que on n'est pas très armé pour faire face à des situations aussi terrifiantes que parfois prendre la parole en public. Et c'est quelque chose qui pour moi, quand j'étais enfant, en tout cas, le contact avec le monde extérieur était très excitant, mais avait quelque chose de trop impressionnant. Mais encore une fois, pour beaucoup d'enfants, c'est le cas. Peut-être que dans mon cas, ce qui est particulier, c'est que j'ai réussi à faire un chemin par rapport à ça, justement.
Il y avait du silence sur votre passé familial. Vous avez réussi, par la grâce de l'écriture, à en restituer une partie, notamment avec la publication de ce livre qui s'intitule « Jacob, Jacob ». Et puis, il y avait aussi le silence sur la Shoah aussi. Quand a commencé l'écriture ?
Je dis souvent que j'ai commencé à écrire quand j'ai su écrire, c'est-à-dire à l'âge de 6 ans ou 7 ans. Alors évidemment, ce verbe-là, écrire, a signifié des choses très différentes au fil des années. Au départ, il s'agissait vraiment d'écrire, de former des mots et de contempler ce prodige du trait sur la page qui a soudain un sens. Et puis de la possibilité d'assembler des mots et de créer une phrase, d'écrire un petit poème comme c'était le cas. Et ensuite, écrire pour moi, ça a été avant tout retenir le temps, parce que j'étais hantée petite, bien plus encore que par le silence, j'étais hantée par l'oubli, et je trouvais absolument inadmissible de ne pas se souvenir de ses premières années sur Terre. Il y avait quelque chose dans le premier oubli, l'oubli de la naissance et l'oubli des premières années, qui était une énigme, qui me scandalisait à proprement parler. Je ne comprenais pas qu'on ne se souvienne pas de quelque chose d'aussi important que notre arrivée sur Terre, que les premières sensations. Et donc j'ai commencé à écrire en me disant, donc là j'avais plutôt 8 ans déjà, 8-9 ans, en me disant je vais tout écrire pour tout retenir à partir de maintenant. Bon, évidemment ça s'est passé autrement, mais en tout cas ça a été un moteur très important.
Petite, vous pensiez aux morts ?
Je pense que la première fois que cette question s'est vraiment formulée pour moi, ça a été au moment de la découverte de l'extermination des Juifs d'Europe. Donc j'avais 8 ans et demi, et à la télé, au dossier de l'écran, était diffusée la série Holocauste, qui a fait événement à ce moment-là, dans la France des années 70. On était c'était l'hiver 79, très exactement. Et donc, première fois qu'à la télévision française, il y avait une fiction portant sur cette histoire-là. Et je ne savais pas ce qui s'était passé pendant la guerre. Je savais que ça concernait les Juifs. Moi-même, j'étais née dans une famille juive. Je savais que la mort était présente dans cette histoire, mais vraiment sans avoir aucune explication ni aucun élément pour pouvoir avoir une toute petite idée de ce qui s'était passé. Et puis j'ai vu un épisode de l'Holocauste. Et là, ça a été un très très grand traumatisme, parce que je découvrais que être juif pouvait condamner à mort, avait été une source de condamnation à mort. Et cette découverte-là a été effroyable. Et pour moi, juste là, être juif, c'était savoir connaître certaines prières, faire certaines fêtes, manger certaines choses, avoir une certaine histoire, considérer peut-être que Abraham, Isaac et Jacob étaient les héros des légendes qu'on me racontait. Et là, tout à coup, être juif était synonyme de ce danger de mort. Et je crois que c'est sur cette question-là que oui, la mort ou la possibilité de la mort est devenue un sujet qui me hantait.
Vos parents ont décidé de quitter la France quand vous étiez une adolescente. Pour quelles raisons ?
Alors, je pense qu'ils ont des raisons qui leur sont très, très propres et intimes. Donc, je ne veux pas parler à leur place. Mais l'une des raisons était que mes parents viennent d'Algérie, on grandit tous deux en Algérie, et ils se sont connus en France, mais ma mère, précisément, lorsqu'elle a quitté l'Algérie, avait très envie de partir en Israël. Elle portait en elle vraiment un idéal pionnier, féministe, elle avait une sorte, je pense, d'énergie qui convenait bien à l'utopie sioniste de l'époque, mais elle était toute jeune, elle avait 17 ans, sa mère n'était pas d'accord, donc ils sont venus en France. Et ensuite, en 83, elle était déjà mariée, elle avait deux enfants, et je pense qu'elle a réussi à convaincre mon père de participer à ça, la construction d'une nation.
Vous avez évoqué dans un de vos livres, Valérie Zenati, ce que ça peut faire comme bouleversement dans une vie d'adolescente que d'arriver dans un nouveau pays, d'apprendre une nouvelle langue, de rencontrer des interlocuteurs qu'on ne connaissait pas, bref, de recommencer un nouveau cycle de vie. Vous êtes fait passer pour une juive ashkénaze alors que vous étiez de culture séfarade. Pourquoi ?
Oui, je le raconte dans Mensonge très précisément, puisque c'en était un de mensonges. C'était très, très déstabilisant d'arriver en Israël et de constater que là où, a priori, c'était le pays des Juifs, donc un pays où il n'y aurait plus cette fameuse peur qui m'avait saisie quelques années plus tôt en France en découvrant qu'on avait exterminé des gens uniquement parce qu'ils étaient Juifs. Donc, là où la peur pouvait tout à fait disparaître, il y avait un autre sentiment qui avait pris la place et qui était plus celui d'une forme de honte parce que, à l'époque encore, et aujourd'hui parfois, il y avait cette tension entre juifs européens et juifs orientaux, avec tout ce qu'on trouve dans les tensions nord-sud, dans une forme parfois soit de sentiment de supériorité d'un côté, du côté de l'Europe, et d'infériorité de l'autre. Et pour moi, c'était très difficile de me confronter à ça parce que moi-même, je me sentais à la fois très européenne étant née en France et ayant une culture française et m'étant identifiée aussi déjà à la culture juive européenne. Voilà, je jouais du violon, je lisais les auteurs de la Mitteleuropa et c'était très difficile de sentir qu'il fallait que j'appartienne dans les yeux des autres à une catégorie, celle des juifs orientaux, qui n'avaient pas cette culture européenne et qui n'avaient en quelque sorte même pas le droit de s'en réclamer. Et donc, comme déjà l'arrivée dans une terre dont on ne parle pas la langue est quelque chose de profondément déstabilisant, je voulais qu'on me fiche la paix et avec ces questions d'origine, comme on dit, ou d'identité, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, j'avais inventé tout un arbre généalogique qui remontait jusqu'au Xe siècle, jusqu'à Rabbi Gershon, qui est un rabbin de la vallée du Rhin, dont le nom ressemble à celui de jeune fille de ma mère. Et j'avais, voilà, créé cet arbre généalogique européen qui passait par l'Allemagne et par l'Italie, qui était le début de la fiction, en fait. C'était une affabulation, c'était une forme de mythomanie. Mais pour moi, je crois que ça a été aussi un des débuts de la fiction, de m'inventer des histoires et surtout de m'autoriser à dire que je pouvais être ce qu'en apparence je n'étais peut-être pas, mais que j'avais le droit de l'être, de me réclamer, par exemple, de ce judaïsme d'Europe.
Vous avez fait votre service militaire, comme toute jeune fille israélienne, vous en avez tissé un récit, et on sent bien que ce sentiment d'appartenance n'a pas été immédiat, et qu'il n'a pas continué dans le temps. D'ailleurs, vous avez quitté Israël.
Oui, alors l'armée, ça a été quand même un moment... Je pense que dans les grands ébranlements de ma vie, il y a le... Tout à l'heure, j'évoquais voilà, l'Holocauste, donc ça, c'est la découverte du massacre des Juifs d'Europe. Il y a le départ en Israël, qui est un deuxième ébranlement très grand, et l'armée en est un, parce que c'est entrer dans un monde qui a ses codes, sa propre langue. Alors moi, je venais tout juste d'apprendre à parler hébreu, mais là, il fallait parler un hébreu fait d'acronymes, bon, c'est encore une autre langue. Et puis surtout, oui, c'est certainement une sorte de tunnel d'intégration au pays, de rite initiatique aussi, de passage à l'âge adulte. J'ai vécu ce moment avec beaucoup de curiosité, beaucoup de questions. Je ne sais pas si j'avais vraiment l'impression de ne pas réussir à m'intégrer à Israël, parce qu'au contraire, moi, j'ai passé mon bac là-bas, je me suis inscrite à l'université, je parlais très bien hébreu. J'avais au contraire l'impression d'avoir réussi à trouver une place. Mais, et puis c'est un pays où il y a énormément de gens dont ce n'est pas le pays de naissance et dont l'hébreu n'est pas la langue maternelle. Mais il y avait peut-être un appel plus profond et qui avait à voir avec la France, où je suis née et avec ma langue maternelle. Et donc, en effet, j'ai décidé de revenir pour un an, parce que Israël était quand même un pays très agité déjà à l'époque, évidemment, et je voulais vivre un an un peu plus tranquille, un peu plus, de manière un peu plus égoïste aussi, parce que je crois que si j'étais restée en Israël, ça c'est vraiment une question très importante, j'en parle un tout petit peu dans Quand j'étais soldate, je n'aurais pas pu faire autrement que faire de la politique. J'étais très secouée par... ma conscience politique s'est forgée là-bas, pendant la première intifada, et dont j'avais vraiment l'impression que je ne pouvais pas me lever un matin sans me retrouver bousculée par l'actualité, devant prendre position, devant réagir, peut-être manifester, peut-être écrire. Et ça me tourmentait beaucoup. Et je crois qu'au fond de moi, je me disais qu'en restant là-bas, je n'aurais peut-être pas de vie propre, que ma vie serait uniquement vouée à ça, à l'action politique. Et je suis rentrée en France et je suis restée.
Aujourd'hui, vous êtes devenue un écrivain majeur. Vous êtes devenue une traductrice incontournable des plus grands auteurs, notamment d'Aaron Appelfeld. Vous publiez en cette nouvelle année un livre magnifique qui est un hommage et aussi une quête de vous-même à l'intérieur de l'écriture d'Aaron Appelfeld et d'un voyage dont nous parlerons tout à l'heure. Aujourd'hui, vous parlez trois langues, naturellement. Oui. Vous parlez le français, vous parlez l'hébreu, vous parlez l'anglais.
Oui.
Votre véritable langue, c'est le pays de l'écriture ?
Je pense.
Ou celui de la musique avec le violon, puisque dans les premières pages de ce nouveau livre, vous nous dites que, eh bien, vous retrouvez le violon après des décennies d'abandon.
Oui, et d'ailleurs, je vais vous faire peut-être une confidence, mais j'avais pour projet d'écrire précisément là-dessus, sur cette quête d'une autre langue à travers la musique. Au moment où Aaron Appelfeld nous a quittés et je n'ai pas pu faire autrement que dévier et écrire Dans le faisceau des vivants et laisser de côté quelque chose qui sera peut-être un jour un livre où la musique aura plus de place. Mais en effet, vous avez commencé à parler du silence et ça m'a très très profondément touchée parce que une des manières pour moi de briser le silence enfant a été de dire je veux jouer du violon. Précisément, un mois et demi après avoir vu Holocauste. Je n'ai pas fait le lien, évidemment, sur le moment, mais j'ai mon carnet de l'époque qui en témoigne. Tout est là, tout le dit. J'ai voulu jouer du violon après avoir découvert la tragédie de 1939-45. Et le violon, pendant longtemps, a eu une place très... pas forcément grande dans ma vie, présente, mais pas forcément grande. Et il est revenu en force après l'attentat qui a eu lieu à Nice il y a quelques années et qui m'a laissé sans voix parce que c'était sur mon terrain d'enfance. J'ai grandi sur la promenade des Anglais, j'ai appris à marcher, à courir, à faire du vélo, du patin à roulettes. C'était mon terrain d'enfance et le voir saccagé de cette manière m'a vraiment coupé la voix. Et je suis retournée à mon violon à ce moment-là. Alors, je sais plus très bien là du coup si comment faire le lien, mais par rapport à votre question, peut-être que ce que je pourrais dire, c'est que il y a quelque chose dans la musique qui évidemment était très très proche, enfin qui pour Aaron était fondamental dans la musicalité des mots, qui m'a permis à travers ce livre d'écrire non pas sur le violon, mais sur ce qu'une musique peut nous dire quand on l'entend et quand on la ressent.
Je vous propose d'écouter la voix de Marguerite Duras qui va parler d'Auschwitz et de l'écriture de son roman La douleur. C'est une archive INA du 24 novembre 1986.
On ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. C'est un dépeuplement de la vie quand même. Quand je pense à ma vie, je pense que j'ai été quand même très absente. Sauf peut-être l'amour de mon enfant. Absente, c'est comme ça écrit tout le temps, c'est-à-dire c'est pas seulement quand on écrit. C'est un quant à soi qui est complètement impérieux, qui ne cesse jamais, dont on est complètement la proie, la victime. Enfin, c'est assez horrible, faut dire. Après chaque livre, je me dis que c'est fini, que je ne peux plus vivre comme ça, dans cet aparté infernal. Il n'y a pas d'écriture qui vous laisse le temps de vivre. Ou bien il n'y a pas d'écriture du tout. Vous savez, c'est ce que je pense. Puisque ce que vous mettez dans le livre, ce que vous écrivez, ce qui sort de vous, ce qui en passe par vous plutôt, puisque c'est ça, en définitive, le plus important de tout ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas faire l'économie de ça. Si vous faites l'économie de ça en faveur de la vie vécue, vous n'écrivez pas.
Vivre ou écrire ? Ou écrire pour survivre ? Ou écrire à partir de ce qu'on a emmagasiné dans la mémoire et pour le traduire autrement ?
Je pense qu'à un moment donné, écrire, c'est parce que c'est le seul lieu possible. Écrire pour trouver le lieu où une voix est audible, des sensations... Et où en effet la vie semble refluer, parce que c'est vrai que c'est pas très spectaculaire et très vivant. Quelqu'un attablé à un bureau et en train de taper sur un clavier. Mais pour moi, c'est sûr que dans ces moments-là, c'est écrire pour au contraire essayer de retenir et de saisir la quintessence de ce qui fait vibrer une vie. Et je pourrais entendre des heures Marguerite Duras parler d'écriture, parce que tout ce qu'elle dit est vrai. Même quand je me souviens avoir lu un jour qu'elle disait que écrire, c'est pas une affaire de concentration, bien au contraire, de disponibilité. Et je crois qu'elle disait que lorsqu'elle écrivait, elle était un peu ouverte à tout vent, elle se laissait traverser. Et je ressens ça moi quand j'écris. Je sens que je me laisse traverser par des mouvements qui sont très vivants, mais totalement invisibles. Et la seule manière d'en conserver la trace, c'est d'écrire.
Quel travail de la mémoire se met en place, Valérie Zenati, quand vous écrivez ce livre là aussi magnifique qui s'intitule Jacob, Jacob, et qui est la restitution de la vie de votre oncle qui est mort durant la Seconde Guerre mondiale, qui habitait Constantine, et dont vous restituez non seulement la vie, mais la vitalité, le corps, les émotions, les sensations. Quand on lit votre livre, on sent tout, le goût de la citronnasse glacée quand il a le temps de prendre un café pendant une permission, le goût de la poussière, cette sensation de désespoir qui l'envahit à plusieurs reprises, alors que le silence, encore une fois, familial sur l'histoire de Jacob, avait enseveli tout ça. Donc l'écriture est-elle enlever toutes les bandelettes qu'il y a sur ceux qui sont morts et enterrés?
Il me semble, enfin pour moi, l'écriture, c'est vraiment le lieu de la vie. D'ailleurs, le lieu où il ne peut y avoir que un mouvement, en tout cas, parce que pour la vie, bon, on peut la définir pendant des heures et de différentes manières. Mais pour moi, ça reste quand même fondamentalement un mouvement. Et l'écriture est aussi un mouvement. L'écriture, c'est lutte contre ce qui est figé, statique, oublié. Et là, en ce qui concerne Jacob, moi, j'ai ressenti qu'il fallait que je donne à ce jeune garçon qui n'a laissé aucune trace, qui est mort sans avoir rien accompli, sans avoir eu d'enfant, sans avoir travaillé, sans avoir fait de ses mains quelque chose qui aurait pu lui survivre, j'ai senti qu'avec les mots, je pouvais, je devais lui donner une existence. Et surtout, pour moi, de manière peut-être là aussi égoïste, l'écriture est d'abord une expérience personnelle, une sorte d'expérience existentielle où mon existence sert peut-être de chambre d'écho à autre chose. Et autre chose, ça peut être dans le cas de Jacob Jacob, sa vie qui résonnait dans la mienne à plus de 70 ans d'écart, et la vie de tous les siens, et cette histoire des Juifs d'Algérie que je connaissais sans connaître.
Je vous propose d'écouter la voix d'Albert Camus à propos du problème algérien. C'est une archive INA du 19 novembre 1955.
Nous, Français, essayez de nous dire que nous avons avantage à considérer la civilisation arabe autrement que beaucoup de Français la considèrent. Je veux dire, non pas avec le sentiment qu'il s'agit d'une civilisation inférieure, mais d'une civilisation qui a ses bases, ses racines, et que nous devons peut-être apprendre à respecter sur un certain nombre de plans. En ce qui concerne la personnalité algérienne, j'avoue que, bien que je me sois intéressé depuis longtemps à ces questions, je ne me suis pas encore fait une opinion. J'aurais donc tort d'affirmer quelque chose de précis. Enfin, pour dire toute ma pensée, ce problème algérien qui était si important pour moi me paraît maintenant s'inscrire dans un problème beaucoup plus général. Je veux dire que le malaise politique algérien, pour moi, vient de la paresse de la pensée politique de la métropole. Et nous sommes toujours de 20 ans en retard sur la situation politique réelle, et ça n'est pas spécial à la France, c'est vrai pour toutes les nations. Il semble que les situations politiques vont comme les avions, très vite, tandis que la pensée va avec la lenteur de sa maturité personnelle et n'arrive pas à rejoindre les situations. C'est ainsi que nous nous fixons, par exemple, sur le problème franco-allemand comme nous nous fixons sur le problème franco-algérien, alors que le problème, tout le monde sait, est le problème russo-américain. Mais le problème russo-américain, et là nous revenons à l'Algérie, va être dépassé lui-même avant très peu, ça ne sera plus un choc d'empire, nous assisterons à un choc de civilisation, et nous voyons dans le monde entier les civilisations colonisées surgir peu à peu et se dresser contre les civilisations colonisatrices. Peut-être que la France, avec son génie particulier, auquel je crois pour ma part, aurait avantage à placer le problème dans cette perspective et être la première nation blanche qui pose le problème réellement sur le plan où il doit être posé, c'est-à-dire en essayant de devancer l'histoire plutôt que d'être continuellement à sa remorque.
Les propos d'Albert Camus étaient diffusés le 19 novembre 1955, donc on était avant la la guerre d'Algérie, on était encore dans une période d'optimisme, de volonté de l'optimisme, tel que Albert Camus va pouvoir le déployer pendant des années et des années. Aujourd'hui, que reste-t-il de ce problème? On voit bien que dans la conscience nationale française, c'est encore un trou noir malgré de nombreuses publications, des historiens spécialisés, des films importants. Et dans votre récit familial, Valérie Zenati, intitulé Jacob, Jacob, il y a aussi cette opposition entre la violence de l'événement collectif, en l'occurrence la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle votre oncle va trouver la mort extrêmement jeune, et puis aussi l'administration, la lenteur de l'administration. Les parents de Jacob vont être obligés d'attendre 3 ans pour pouvoir avoir enfin la certitude que leur fils est mort, et 3 ans pour que le corps soit rapatrié dans la terre algérienne, qui était une terre française, et pour qu'un enterrement puisse avoir lieu. Mais là, encore votre grâce d'écriture, Valérie Zenati, vous nous racontez comment il a fallu que la famille fasse semblant de pleurer, parce que les choses étaient passées, la douleur subsistait, mais la mémoire restait, mais peut-être pas avec les larmes.
Oui, c'est une toute petite histoire dans une très très grande histoire, l'histoire de Jacob. Et je pense que il y a des millions de gens qui ont vécu des choses qui apparaissent comme des mini drames et qui pour eux étaient bien entendu c'était l'alpha et l'oméga de ce qu'ils avaient vécu et perdu. En l'occurrence là, c'est l'enfant qui part, le plus jeune, le plus beau, le plus intelligent, le plus doux, qui part faire la guerre, qui ne revient jamais et qui va revenir dans un cercueil, dont les restes sont ramenés dans un cercueil. Et à ce moment-là, moi j'ai pas pu m'empêcher de penser que la peine évidemment avait surgi de manière violente, incontrôlée au moment de l'annonce. Et 3 ans plus tard, je ne sais pas très bien comment les gens ont réagi, mais c'est évident qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la mise en scène, parce qu'on portait en terre quelqu'un qui était mort 3 ans auparavant. Il faut imaginer dans notre monde qui va si vite aujourd'hui, mais de façon générale. On parle du deuil nécessaire à partir du moment où on enterre les gens. Là, au contraire, le temps a été très long et... Et puis c'était aussi une société dans laquelle il fallait montrer la douleur. Il y avait quelque chose de l'ordre presque de l'injonction sociale de montrer sa douleur, alors qu'elle était, elle pouvait être tout aussi vraie en étant moins visible. Et donc là, je pense, oui, son enterrement était une sorte de mise en scène et qui venait compléter toute cette grande fiction qui a été pour la mère de Jacob, notamment le départ de son fils à l'armée. C'était quelque chose qui était en dehors de la réalité, je pense, pour elle. Et elle a vécu comme une fiction jusqu'au bout, enfin une fiction qui l'atteignait de plein de fouets, mais qui ressemblait à rien de ce à quoi la vie l'avait préparée. C'est peut-être ça, les moments où on a le sentiment que le monde autour de nous est irréel, où on a le sentiment parfois d'être dans un film, comme on dit, ou dans une fiction, c'est quand on est dans une situation à laquelle rien ne nous a préparé.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Valérie Zenati, Bach, concerto doux pour violon, Yehudi Menuhin, David Oistrakh. Thank you. Pourquoi ce choix ? Merci pour ce choix, Valérie.
Alors, pour plusieurs raisons, mais Bach était le compositeur préféré d'Aaron Appelfeld et je l'ai beaucoup écouté et joué depuis la mort d'Aaron. Et puis le concerto, voilà, pour deux violons, c'est un concerto qui me parle énormément parce que j'aime évidemment le dialogue entre ces deux violons. J'ai l'impression que c'est le dialogue de deux voix qui se superposent, se parlent, se complètent, se répondent. Et c'est un concerto qui me parle beaucoup. Voilà, j'essaie de jouer tantôt l'une des deux voix, tantôt l'autre. Et peut-être que dans la traduction, il se passe quelque chose de cet ordre-là.
En exergue de votre nouveau livre intitulé « Dans le faisceau des vivants », vous mettez une citation d'Aaron Appelfeld qui, je crois, est très importante dans l'absolu, mais très importante aussi pour comprendre ce chemin initiatique qui, après la mort de Aaron Appelfeld, va vous mener vers une sorte de recoïncidence avec vous-même. Voici ce qu'écrit Aaron Appelfeld. Quand on rencontre quelqu'un, c'est signe que l'on devait croiser son chemin, c'est signe que l'on va recevoir de lui quelque chose qui nous manquait. Il ne faut pas ignorer ces rencontres, dans chacune d'elles est contenue la promesse d'une découverte. Quand avez-vous rencontré pour la première fois Aaron Appelfeld, Valérie Zenati ?
J'ai toujours du mal à répondre vraiment à cette question parce que j'ai l'impression, comme je le dis dans le livre, qu'on s'est rencontrés pour la première fois plus d'une fois. Et parce que une rencontre telle que celle-là, on en fait peut-être deux, trois dans une vie au maximum, c'est-à-dire une rencontre qui bouleverse totalement la perception qu'on a du temps, de l'amour, de soi-même, des autres, de la relation, des mots les plus simples qui prennent un sens nouveau. Et donc je peux dire j'ai rencontré Aaron Appelfeld pour la première fois en le lisant tout simplement et en lisant Le Temps des prodiges lorsque je préparais la gradation d'Hébreu en 2002. Puis ensuite je l'ai rencontré en chair et en os quelques mois plus tard, enfin un an plus tard à Jérusalem, et là aussi évidemment ça a été une première rencontre. Mais je crois qu'on avait tous les deux conscience que il y avait une rencontre qui avait eu lieu ou qui avait lieu simultanément avec les autres et qui était hors temps. C'était une rencontre de deux enfants, de lui enfant, de moi enfant. Quelque chose de nous, vers l'âge de 8 ou 9 ans, qui s'était profondément rencontré. Et je pense qu'on contenait l'un et l'autre une part peut-être des questions que l'autre se posait. Pas forcément des réponses, mais des questions.
Alors Aaron Appelfeld est l'un des plus grands écrivains israéliens. Aujourd'hui, son œuvre est traduite dans le monde entier. Vous nous l'avez fait redécouvrir en France parce qu'il avait été publié auparavant par un éditeur, mais il n'avait pas été reçu ni accueilli. grâce à votre amour pour l'œuvre d'Aaron Appelfeld, son œuvre est maintenant bien connue. Je vous propose d'écouter sa voix. Il va parler de son art littéraire.
Vous savez, en tant qu'homme, on ne vit qu'une vie. En tant que créateur, en tant qu'artiste, j'écris sur beaucoup de gens, j'écris et je décris des femmes, des enfants, des personnes âgées. J'ai décrit des personnes âgées quand j'étais jeune. J'ai écrit sur des enfants maintenant que je suis âgé. En fait, je vis des époques différentes, je vis avec des gens différents, mais tout cela vient de moi, ça vient de l'intérieur de moi. Je ne m'occupe pas de personnages, non, je ne m'occupe pas de personnages de telle ou telle sorte. Ce que je fais, c'est que je cherche à m'agrandir, à me réduire, à vivre différents âges de ma vie. Je ne fais pas comme si je comprenais les femmes, les enfants, les personnes âgées. Je ne suis pas comme Balzac. Je n'écris pas comme Balzac sur différents types d'êtres humains. C'est tout à fait autre chose. C'est clair?
Ben, je vous vois ému, Valérie, en écoutant la voix de Aaron Appelfeld. Aaron Appelfeld, qui a été reconnu et ça a été immédiat en France grâce à votre traduction d'Histoire d'une vie. Et puis ça a été le début d'une découverte d'un écrivain immense, immense par la grâce de son écriture, par l'économie de son écriture, par l'universalité de ses propos, par son désir de loyauté avec chacun d'entre nous, chaque lectrice, chaque lecteur, pour essayer de désenfouir dans sa propre autobiographie des strates de sa mémoire, car il a réussi à se sortir d'un camp, il est devenu enfant des bois. Bref, je ne vais pas raconter tout ce que vous avez dit si bien au cours de ce dernier livre, mais ce dernier livre que vous sortez aujourd'hui, qui s'intitule « Dans le faisceau des vivants », Valérie Zenati, il part d'une histoire bien réelle et assez extraordinaire. Pour celles et ceux qui croient à une porosité entre le monde des vivants et le monde des morts, ils peuvent penser, ces personnes-là, et elles sont nombreuses, qu'ils ont raison, vous leur donnez raison. Car vous prenez, votre livre commence le 31 décembre 2017, quand vous prenez l'avion pour aller voir Aaron Appelfeld. Vous appelez juste avant de l'aéroport et on vous dit que Aaron Appelfeld a été hospitalisé. Ce n'est pas très grave, mais quand vous arrivez, il est mort. À partir de là, quelque chose à l'intérieur de vous, de votre corps, de votre âme, de votre esprit, va être totalement bouleversé. Il a fallu l'écriture pour que vous compreniez ce qui vous arrive. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aviez perdu un frère, un père, un grand-père, ou l'écrivain le plus important de votre existence ?
Je prendrai le premier mot et le dernier. Quand vous dites un frère, vous avez commencé en disant un frère, et je pense qu'il y avait quelque chose de profondément fraternel dans notre relation. Et puis c'est aussi un des plus grands écrivains qu'il m'était donné de côtoyer, évidemment. Au-delà de ça, alors c'est dans la nuit du 3 au 4 janvier que je me suis préparée à partir pour Tel Aviv, sachant qu'Aaron n'allait pas bien, enfin qu'il était hospitalisé. Et ça a été une nuit de dialogue ininterrompu, enfin intérieur évidemment, mais entre lui et moi tout de même, enfin entre ma voix, enfin entre la voix que j'ai en moi et qui est la sienne et ma propre voix, je crois que dans sa disparition, il y a plusieurs choses qui se sont jouées. J'y pensais récemment en disant qu'il a, en quelque sorte, au début de cette année 2018, il a presque ouvert la voie aux grandes disparitions des grands témoins. C'est-à-dire qu'après lui, Simone Veil est morte, et puis après lui, Jacques Lanzmann est mort. Claude Lanzmann, pardon. Jacques est mort il y a plusieurs années déjà. Claude Lanzmann est mort, Marceline Loridan. Toute cette génération qui nous a transmis à travers leur propre existence, à travers leur œuvre aussi, et leurs mots et leur façon d'être, ils nous ont tous transmis l'écho de la catastrophe. Pour moi, leur disparition, et à commencer par celle d'Aaron qui m'était le plus proche d'un point de vue affectif, leur disparition contient en elle-même l'écho de cet écho. Je crois que ce qui m'a saisi quand Aaron est mort, c'est que j'ai eu le sentiment que tout ce qu'il nous avait transmis, je parle pas que de moi, mais il se trouve qu'en France, ça passe à travers ma voix française, mais tout ce qu'il nous avait transmis se trouvait condensé là, et tout ce que lui-même avait cherché à dire surgissait avec force, je sais pas, c'est comme si un torrent était libéré, qui avait toujours été là, hein. J'ai pas eu besoin de sa disparition pour savoir à quel point il était important comme écrivain, mais aussi comme écrivain humaniste. Vraiment, l'œuvre d'Aaron est tournée profondément vers la restitution de la dignité humaine à ceux à qui on l'avait ôté. Et cette dignité passe par des choses très simples, une façon d'être mari et femme, une façon de tendre un café à quelqu'un qu'on croise sur un chemin, une façon de même d'être mauvais. Parce que pouvoir être mauvais, pouvoir être ambivalent, pouvoir être jaloux, c'est aussi de l'humanité. Et donc, tout ce travail-là extraordinaire qu'Aaron a fait pendant des années, des dizaines d'années de vie et d'écriture, et toute la relation qu'on a eue, c'est comme condensé dans cette nuit qui était celle de sa mort. Et ensuite, il m'a fallu plusieurs semaines de silence pour essayer d'attraper tout ce qui vibrait dans ce silence-là. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre.
Nous avons demandé à l'immense traducteur et écrivain qui est André Markowitz de nous parler de vous. Écoutez.
L'auteur qu'on traduit, genre que ce soit Aaron Appelle ou Dostoïevski ou qui vous voulez, ou le pape de Rome, dans notre littérature à nous, il n'a pas de voix, vu qu'il a écrit dans une autre langue. Donc la seule langue qu'il est, dans notre littérature, en l'occurrence le français, pour Appelfeld, c'est la voix de Valérie. Valérie n'est pas la seule à avoir traduit ça, comme moi je ne suis pas le seul à avoir traduit Dostoïevski. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la question n'est pas est-ce qu'on prend la voix d'Appelfeld ou qui que ce soit. C'est comment est-ce que nous rendons, nous, notre propre lecture de cet auteur, de ce livre? Comment est-ce que nous rendons structure pour structure? Parce que c'est en travaillant sur la structure et pas sur le mot à mot, pas sur les phrases, qu'on arrive à retrouver non pas la voix de l'auteur, mais une des voix possibles. L'auteur, sa seule voix, la seule voix qu'il est, c'est dans sa langue originale. C'est tout. Parce que c'est la voix qu'il avait, le pauvre, quand il parlait. Et il n'est plus là maintenant. Mais en français, ou dans n'importe quelle langue, il ne s'agit pas de la voix de l'auteur, il s'agit de son monde intérieur, de son style, et donc de la façon dont il construit les textes. De son intonation, de la structure de ses récits, de la construction de ses phrases. Et ça ne peut donc être qu'un travail réfléchi et partiel. Je dirais partial et partiel. Parce que personne, aucun traducteur, ne peut avoir la prétention, et je sais bien que Valérie Zanetti ne l'a pas du tout, avoir la prétention de représenter l'auteur. Nous ne représentons pas l'auteur, nous le présentons. Si moi, j'aime l'auteur qu'elle traduit et que je ne le connais pas dans sa langue originale, en hébreu, je ne parle pas l'hébreu, et ben ça veut dire que Valérie, elle a traduit bien. Je ne sais pas comment elle a traduit, mais ce que je peux dire, c'est que dans les interviews que j'ai entendues de Aaron Appelfeld, dans la façon dont il posait sa voix, dans cette espèce de délicatesse et en même temps de grande fermeté qu'il avait dans sa parole basse, et ben ça, je le retrouve dans les phrases des livres traduits par Valérie. Et donc, je trouve que c'est des traductions qui sont des œuvres littéraires. Alors bien, pas bien, je sais pas, mais que ce sont des œuvres. Qu'il s'agit de quelqu'un, je parle de Valérie Zanetti, qui travaille sur la langue française, ce que doit faire tout traducteur.
Alors nous venons d'entendre l'avis d'André Markowitz, immense traducteur du russe notamment, et finalement vous allez encore plus loin que ce que dit André Markowitz, c'est-à-dire qu'à partir de la traduction de l'œuvre d'Aaron Appelfeld, certes vous écriviez avant de le connaître. Certes, vous faisiez des traductions, j'ajoute que vous êtes aussi scénariste, que vous avez écrit des romans pour la jeunesse, vous aviez déjà une expérience avec les mots. Mais là, avec ce nouveau livre intitulé « Dans la le faisceau des vivants », j'ai l'impression que vous gravissez une marche supplémentaire dans la découverte et la reconnaissance que peut procurer l'écriture, à la fois pour vous, mais pour nous aussi, lectrices et lecteurs. C'est-à-dire que c'est l'œuvre d'Aaron Appelfeld qui vous a tellement impressionné, qui s'est tellement intériorisé en vous que vous avez fait le dernier voyage. Et le dernier voyage, eh bien, c'est le retour au pays de l'enfance de l'auteur Aaron Appelfeld. Vous étiez pas bien, vous ne saviez pas où allait votre existence, et tout d'un coup, je vais vous citer Valérie Zenati dans votre avant-dernier chapitre. C'est la première fois de mon existence qu'il m'est apparu vital d'être à un endroit précis, à un moment précis, lieu et temps, comme une énigme enfin résolue, question et réponse dans le même mouvement, ici, maintenant. Et vous êtes parti au lieu de naissance d'Aaron Appelfeld, Tchernowitz.
Oui, d'abord je voudrais quand même dire que je suis très très émue d'entendre, enfin j'ai été très émue d'entendre André Markowitz parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai une admiration infinie. Donc, je suis très touchée par chacun de ces mots. Et oui, ce voyage à Tchernowitz s'est imposé à moi pendant l'écriture du livre. Parce que ce livre-là, ça a d'abord été une chambre d'écho dans laquelle j'ai essayé d'entendre, enfin, voilà, tout simplement de laisser passer la voix qui me traversait, celle d'Aaron. Et puis à un moment donné, je ne l'ai plus entendu. Le temps est passé, et je me suis aperçue que la date de son anniversaire approchait, de l'anniversaire d'Aaron, le 16 février, et je ne comprenais pas comment cette chose-là était possible, l'anniversaire de quelqu'un sans sa présence. Et là, ce voyage s'est imposé à moi. Le voyage à Tchernowitz. Lui-même disait que toute sa vie, il n'a écrit que pour retourner à la maison première. Ce voyage vers sa maison première à lui est devenu une obsession et je n'avais qu'une envie, c'était d'être le 16 février 2018 à Tchernowitz et je l'ai fait.
Tu m'as enseigné la fidélité à soi-même et la liberté tissée dans un même geste, un même corps. L'adulte pouvait rejoindre l'enfant et l'enfant rejoindre l'adulte. La vie était tout sauf figée, elle était plus que jamais mouvement, voilà. C'est peut-être l'image que je cherche depuis ta disparition, elle est un peu floue puisqu'il s'agit d'un mouvement. Celui que je te dois, celui qui donne du courage, qui fait que l'on ne reste pas pétrifié dans le passé, mais au contraire vivant, portant en nous tout ce que la vie a déposé, et innocent encore, capable d'aimer, de croire à l'amour. Ce sont des mots que vous avez écrit, Valérie Zenati, dans ce magnifique livre qui sort ces jours-ci et qui s'intitule « Dans le faisceau des vivants » aux éditions de l'Olivier. Merci infiniment Valérie Zenati et on va
Merci
se quitter en écoutant Jean-Louis Murat.
Je me souviens d'une terre brûlée alentour, d'une vallée de larmes où chacun cherchait l'amour. Je me souviens des frémissements les plus légers, je me souviens. En demi-conscience, j'allais au fond des ténèbres, sous ta robe blanche, la nuit est surnaturelle. Je me souviens d'une voile tendue au fond de la nuit, je me souviens. Je me souviens d'un monde dans l'univers, je me souviens de l'appel de la lumière, d'une dame en noir qui gifle le loup des mers, je me souviens. Je me souviens par la bride dans l'obscurité, Je me souviens de l'altitude où je me trouvais. Je me souviens boire dans un même ruisseau. Je me souviens. Je me souviens d'un assassin dans la montagne, une digue, un pont, la bataille de Wagram, d'une Milanaise et d'un qui vient à mourir. Je me souviens. Je me souviens de matins passés hors de France. Je me souviens du regard des gens de Florence. Je me souviens de savants de main de bourreau. Je me souviens. Je me souviens que le cœur frémit d'amour, que l'amour s'en va si orgueil avec amour. Je me souviens qu'on me déshabille à la nuit. Je me souviens. Je me souviens du parfait vassal que j'étais, pensant ta voix basse, pourquoi veut-elle me tuer? Je me souviens comme agité de tremblement. Je me souviens. Je me souviens que le père venait de mourir, d'une armée anglaise piétinant mes souvenirs. Je me souviens de Murat aux portes de Naples. Je me souviens. 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 Je me souviens, je me souviens, je me souviens.
Merci encore Valérie Zenati, c'était « Je m'en souviens » de Jean-Louis Murat. Merci à Tiffany Battistel qui était à la technique ce soir. Merci à Élodie Royer, Alexia Lacour et Antoine Joubert qui m'ont aidé à préparer cette émission. À Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux et Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Et après le prochain journal d'information, eh ben, faut vous mettre en forme pour un début d'année. Faut repartir sur le dance floor grâce à l'ami Mishka Asayas pour son Very Good Trip.